Bonjour tout le monde.
Ah, ça y est, vous m'entendez? Alors, c'est un sujet ce matin que je vais partager qui, vraiment, je dois vous dire, cette semaine, je me suis dit, mamma mia, qu'est-ce que je vais faire dimanche? J'ai rien, j'ai aucun sujet, c'est vide de chez vide, aïe, aïe, aïe. Ah. Et puis, en fait, il y a le mot qui m'est arrivé dans mon esprit, et c'est le mot qui s'appelle le mot transition. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie, le mot transition en lui-même? Est-ce que quelqu'un arrive à me le dire? Le mot transition. Passer d'une chose à l'autre, mais comment? C'est quoi passer d'une chose à l'autre? C'est un état d'esprit de changer à un autre. Mais comment? Avec... enfin oui, enfin non. Oh là là. Alors la transition, moi j'étais impressionnée quand j'ai regardé dans les dictionnaires, enfin en regardant sur Internet. En fait, la transition, ça touche tout. Ça touche la musique, les notes de musique, ça touche l'eau, ça touche les éléments, ça touche les gens. En fait, voilà, le mot transition, en fait, il se glisse pratiquement partout. Alors si je voudrais le développer, on pourrait passer 40 minutes, mais ça ne sert à rien puisque ce n'est pas le but quand même. Mais la transition qui nous concerne, je vais vous dire d'abord ce qu'ils ont dit. C'est un changement de modification quant au fait de changer, de ne plus être le même, changement de fait de quitter une chose pour une autre. Voilà, on y est, hein, Jean-Pierre. Le changement est acte de ce qui évolue, se modifie, chose, circonstance, état psychologique. Alors après, bon, alors disposition permettant de changer de vitesse. Bon, ça c'est, voilà, ça c'est, ok. Ensuite, là, il y a aussi d'autres termes pour vous dire que c'est un mot qui contient une richesse incroyable en lui-même. C'est passage, passe, franchissement, traversée, voyage, pont, passerelle, ponceau, viaduc, évolution, changement, transformation, mouvement, processus, développement, marche, progrès, modification, mutation, transformation, évolution, bouleversement. Je me suis arrêtée là. c'est pas mal. Hein. Mais en fait, on va faire plus simple. De tout ça, j'ai synthétisé en disant que c'est un temps intermédiaire entre une saison et une autre. Un temps intermédiaire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me faut quelque chose de simple. Et puis voilà ce qui m'est venu. Un temps intermédiaire entre une saison et une autre. Et pendant que j'avais ce mot transition, je me rappelais aussi du rêve que j'ai eu, qui était comme un rêve où c'était réel, où dans notre église, il y avait un orateur qui semblait venir de l'extérieur et qui nous disait « Laissez les choses anciennes, l'héritage, et entrez dans ce nouvel héritage que je vous donne, dans cette nouvelle saison. » Ça veut dire que tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, laissez-le, mais préparez-vous à entrer dans ce que je fais pour vous. Et je voyais vraiment dans l'esprit, l'esprit était tellement fort sur notre église, et moi, sincèrement, je crois, hein, on va laisser un petit pourcentage quand même, mais je crois que ça peut nous arriver, franchement, parce que c'était incroyable ce rêve, parce que c'était vraiment beau. Et je voyais, je me permets de dire, Christine, qui sortait des rangs, et puis qui était saisie par l'esprit, et puis qui vraiment entrait dans cette nouvelle dimension. Et après, avec Christine, on a parlé, elle m'a dit, mais ça l'a touchée personnellement. C'est ce rêve que j'ai reçu. Ensuite, on a parlé de réveil, ce réveil que le Seigneur se préparait à nous donner, parce que Dieu a son bras en mouvement, et puis que quand Dieu met son bras en mouvement, en fait, il y a tout qui se met en mouvement autour de nous, et puis il y a tout qui est transformé. Hein. Qu'est-ce qui peut rester statique quand Dieu se met en mouvement? Les nations bougent quand les gens d'Israël reviennent. Les nations ne peuvent pas rester... Ça bouge, ça réagit, c'est quand le bras de Dieu agit. Alors, pour nous encourager, je vais prendre... J'ai pourtant mis mes marqueurs. Je vais prendre Ésaïe 43. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements, aux premiers événements. ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Jusque-là, hein. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches me rendront gloire et parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Qui peut s'identifier avec un sentiment d'avoir terminé une saison ? La saison est vraiment finie. Et puis, il y a un 3 points de suspension. Qui c'est qui s'identifie aux 3 points de suspension ? 3 points de suspension, c'est-à-dire que ces 3 points de suspension, c'est un temps dans lequel semblerait-il que rien ne se passe. Mais pendant que rien ne se passe, derrière, il y a une promesse. Mais entre la promesse et l'arrivée, il y a un temps qu'on appelle de préparation. Puis le temps de préparation, il comporte 3 choses. Un, c'est un débriefing, à quelque part, sur tout ce qu'on a vécu pendant cette saison. Dans ce débriefing, ça veut dire commencer à vraiment se remémorer, se souvenir de tout ce qui s'est passé. Puis dans ce débriefing, à quelque part, de dire, mais là, je lâche prise. Là, je pardonne. Là, quelque part, mais Seigneur, je me repens. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je te demande pardon. Et puis ensuite, comme à quelque part consolider ce qu'on a vécu par un positionnement. Un positionnement. Alors ça, c'est terminé. Là, j'y entre plus. Ça, je connais. Je ne laisse plus l'influence de l'extérieur venir toucher mes pensées. Parce que l'ennemi rôde autour de nous avec ses pensées, il vient s'incruster dans les nôtres, et puis il suffit qu'on ne soit pas très bien, et puis tout à coup on croit que c'est les nôtres, mais on connaît l'atmosphère de l'extérieur, hein, et on dit non, et on apprend à se positionner. Et en même temps, c'est un temps où il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors où c'est qu'on trouve dans la parole de Dieu des temps comme ça ? Des temps de transition, est-ce que ça vous donne des idées ? Vous avez dans les récits bibliques des temps où il y a une transition qui s'est vécue. Yes, vous êtes sûr que c'était la première réponse qui allait sortir. Parfait, c'est vraiment ça. Et puis, d'autres ? D'autres idées ? D'autres. On n'a pas l'habitude hein, de ce mot transition. Alors, la terre promise, c'est la promesse ? Et il y a la transition qui va préparer le peuple à entrer dans la promesse. Hein, c'est juste. Hein. Ben moi, j'étais étonnée. En fait, dans les récits bibliques, il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu qui passent dans des temps de transition. Oh, alors, effectivement, on commence par le peuple d'Israël qui quitte sa position d'esclave, qui reçoit une promesse d'entrer dans le pays promis, qui entre dans une phase de transition, c'est-à-dire quitter les choses anciennes, apprendre les choses nouvelles, s'approprier, se positionner et se préparer à rentrer. Alors, Dieu a tout fait. Hein. Il a ouvert la mer, il a chassé les ennemis, il a appris que dans ces temps de transition, ben, c'est un nouveau terrain dans lequel on ne connaît rien, mais rien de chez rien. Et puis, le connu est derrière nous, englouti derrière la mer, hein, l'océan. Et puis, non, c'était la mer, là. C'était un océan de mer. Et puis, ça y est, qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà, on quitte l'Égypte, on voit un Dieu glorieux qui nous en sort. Puis, on est en train de traverser la mer. Et puis, il y a les Amalécites qui arrivent. Puis voilà, qui se ruent sur les Israélites, qui sautent comme des pop-corns parce qu'ils n'ont plus du tout l'habitude d'être des guerriers. Plus du tout l'habitude. Ils ont été pendant 400 ans asservis. Et puis ils sautent comme des pop-corns, ils ne savent plus du tout comment se battre. Et c'est là que le nom de Jéhovah Nissé vient en Jéhovah Nissé. Le Seigneur qui combat pour nous arrive. C'est-à-dire que Moïse lève les mains, soutenu par Hur et Araon, et ils invoquent le Dieu qui combat pour nous, Jéhovah Nissé. Et chaque fois qu'ils le font, Dieu leur montre qu'il est celui qui gagne les victoires. première leçon, deuxième leçon, la manne dans le désert, alors qu'ils ont dû travailler dur pour avoir juste un tout petit peu de nourriture, voilà qu'ils ont la manne, ils ont même des cailles, parce que des fois, le Seigneur, il en a marre, des murmures, il y a l'eau qui jaillit, il y a plein de miracles qui se font. Et puis, il y a une mentalité qui doit changer face à la réalité de Dieu qui s'approche dans un terrain de transition dans lequel personne ne connaît rien que le passé d'avant. Alors, dur et long travail entre Moïse, le peuple et Dieu, qui aboutit finalement à ce que le jour où il faut espionner le pays promis, il n'y en a que deux, tout le monde connaît les noms, Caleb et Josué, qui disent, ouais, alors, si Dieu nous a dit qu'on peut entrer dans ce pays, c'est juste magnifique, ok, il y a des géants, il y a ci, il y a ça, mais Dieu nous a dit, puis il y a les autres qui ont dit, ouais, Dieu nous a dit, mais il y a des géants, des ci, des ça, des machins, et puis ça ne vaut vraiment pas la peine, ils parlent de leur propre force, encore de leur propre force. Et Josué et Caleb parlent de la promesse de Dieu et de sa propre force pour y arriver. Et à la fin, c'est tellement, tellement terrible que le Seigneur en a marre. Puis il a dit, bon, bah, puisque ce peuple ne veut pas, eh ben, il mourra dans ce désert. Donc ce temps de transition pour ceux qui étaient du temps d'Égypte, voilà. Doivent mourir dans le désert, ça c'est triste. Et c'est la génération suivante avec Josué qui entre et puis qui doit s'approprier du terrain promis. Mais pour ça, il faut une préparation. Il faut connaître qui est Dieu. Il faut changer de mentalité. Voilà, c'est une histoire. La deuxième, Élie. Élie, le grand prophète. Alors lui, il va confronter les serviteurs de Baal. Et puis, donc, pas Baal campagne, hein, Baal. Et puis, il les confronte avec vigueur, avec feu, avec fougue. Puis il leur dit, Mais ils sont allés où, vos dieux? Puis littéralement, c'est marqué, même en hébreu, ils sont allés pisser ou quoi? Parce qu'il n'y a rien qui se passe chez vous. Par contre, voilà, je fais mon offrande, je mets de l'eau en quantité, je mets l'offrande dessus. Et puis, Dieu, tu sais que je fais sur ton commandement, alors envoie ton feu pour agréer mon offrande, afin que le cœur de mon peuple, de ton peuple, se retourne vers toi, se tourne vers toi. Et puis, Dieu l'exauce, fait descendre le feu du ciel. Et tous les prophètes de Baal finissent devant le fleuve du Kédar et puis ils se font, à la manière, ils se font égorger. Sympathique fin pour ceux qui servent Satan. Mais par contre, alors, voilà que Jézabel, qui est investie de cette puissance de la sorcellerie et qui a quelque part presque une autorité là-dedans, dit que je ne vive pas si cet homme, demain, il est encore vivant. Élie. Alors Élie, il a la trouille, mais une trouille pas possible, il tremble de tous ses membres devant cette dame investie de ses puissances destructrices, castratrices, tout ce que vous voulez, qui veulent détruire ce prophète de Dieu par lequel le feu de Dieu est tombé sur son offrande. Il va se cacher et il dit, « Ah non, mais Dieu, ça vaut mieux que je meure parce que ça ne vaut pas la peine de vivre, c'est comme ça !» Et puis, il vient de juger les prophètes de Baal. Hein. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il se couche, il vaut mieux mourir. Alors, il se couche, il se prépare à mourir. Alors, il tombe dans un sommeil profond de mort. Puis, il se réveille avec un petit gâteau, tout fumant. Puis, une cruche que le Seigneur lui a préparée par ses propres soins. Temps de transition entre une époque où tout a été accompli pour que le nom du Seigneur soit révélé et glorifié, et puis, quelque part, qu'est-ce qu'il avait au fond de lui par rapport à Dieu avait besoin d'être réajusté. Alors, ce petit gâteau, tout sucré, tout mielleux, tout, il est bien, quoi. Voilà, il le mange, ça lui permet de faire 40 jours de marche. Auparavant, avant d'aller confronter ces prophètes de Baal, les corbeaux l'ont nourri. Donc, pendant ces temps de transition où on s'arrête, on s'aligne avec le Seigneur, puis on ne fait rien, eh bien, en fait, le Seigneur nous nourrit. C'est impressionnant. Hein, il pourvoit, il nourrit. Et en fait, la finalité, c'est que quand il dit « Tiens-toi devant la grotte » à Élie, quand Dieu dit à Élie « Tiens-toi devant la grotte », Élie se tient devant la... il est derrière, il est à l'intérieur de la grotte, Puis il y a un vent violent qui passe, il y a le feu, la grêle, enfin il y a tout. Tout ce qu'il a connu, en fait, passe. Puis tout à coup, il y a une brise légère. Ah, Élie connaît la brise légère. Parce que Élie, il a aussi dit aux hommes qui venaient lui demander de descendre, viens, descends ici, il a aussi dit, si tu dis que je suis homme de Dieu, alors que la foudre tombe sur toi et tes 50 hommes. Première équipe, balayée par le feu de Dieu. Deuxième équipe de 50 hommes, descends, on te demande de descendre, homme de Dieu. Ah, bah si tu dis que je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous. Deuxième équipe. Ça en fait 100. Donc, vous voyez, il travaillait avec la foudre de Dieu. Troisième équipe. Ah, mais épargne, s'il te plaît, notre équipe, là, parce qu'on aimerait que tu descendes vers nous, mais ils s'agenouillent. Puis là, le Seigneur lui dit, c'est bon, tu peux descendre avec. Mais c'est un homme qui... Vous vous souvenez, il y en a des qui sont sortis, puis qui ont dit « Oh, chauve, chauve !» Et puis il les a maudits, puis hop, il y a un gros ours qui est sorti, puis qu'ils a tous bouffé. Donc c'est très sympa, ce prophète Élie, il est pas colérique, il est magnifique, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se tient devant cette grotte quand la brise douce et légère du Seigneur arrive. Et puis ensuite, après vous connaissez l'histoire, c'est le moment où il peut transmettre à Élisée. Et Élisée qui dit que je veux recevoir, mais la double portion, je ne veux pas rester dans la saison dans laquelle je suis, je veux avoir une double portion. Et puis il lui dit, non mais attends, parce que je vais bientôt partir, alors reste ici. Non, non, je te suis partout, puis je suis dans chaque ville, qu'il y a une ville, chaque ville a sa signification, mais je ne m'en souviens plus. Mais enfin voilà, puis à la fin, à force de persévérer, Élisée reçoit la double onction pendant qu'Élie s'envole vers le Seigneur, parce qu'il s'envole en fait, hein, il part. Alors voilà, ça c'est une deuxième chose. Alors on pourrait dire aussi beaucoup de choses, on pourrait parler de David, qui a reçu la promesse d'être roi, puis qu'entre le temps de devenir roi, entre la promesse et le temps de devenir roi, qu'est-ce qui se passe? Il est pourchassé par Saül partout. Et pendant ce temps de transition, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à se positionner dans le respect de l'onction que le Seigneur donne à quelqu'un qui a la royauté, malgré que c'était une royauté qui était choisie par les hommes et non pas par Dieu. Dieu a donné son accord pour Saül, il a oint au travers de Samuel, mais c'est parce que le peuple l'a demandé. C'est un roi selon la chair qui a produit son fruit de la chair, et David, c'est un roi selon le choix de Dieu qui doit produire les fruits de l'Esprit de Dieu. Et David, ben, il doit apprendre douloureusement dans ce temps de transition que... C'est en l'Éternel que se tient toute chose. En fait, son esprit s'aligne avec celui de Dieu de plus en plus, et on le voit au travers des psaumes, où à la fin, c'est l'acclamation totale. Comme Denis a lu le psaume 150, c'est l'acclamation. Tous les derniers psaumes, c'est l'acclamation totale de la part de David. Et il arrive et il est prêt pour être roi. Temps de transition pour le Seigneur Jésus-Christ. Volontairement, il prend son baptême, et puis la colombe descend sur lui, il est dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, il est emmené dans le désert, pendant 40 jours, il ne mange rien. Donc là, il y a de nouveau rien. Pendant 40 jours, il ne boit ni ne mange rien, si je ne me trompe pas. Et au bout du 40e jour, l'ennemi vient le tenter, il répond par la parole de Dieu. Il est dit qu'après ce temps-là, il revient revêtu de la puissance d'en haut. Différent. On peut parler de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Temps de transition avant de recevoir cette double bénédiction, triple bénédiction, ou je ne sais pas combien de fois de bénédiction qu'il a reçu après un temps de transition aussi douloureux que le sien. Il y a plusieurs temps de transition. Il y a vraiment plusieurs temps. Et puis ensuite, il y a le deuxième temps, c'est de Jésus, c'est le jardin de Gethsémané. Le jardin de Gethsémané, c'est un temps où il a dû se préparer à aller à la croix. Et c'était un sacré temps de transition. Il y a une histoire similaire qui s'est passée, je ne sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie, avec des frères catholiques qui étaient médecins. C'était connu, il y a un film qui s'appelle « Le Dieu et les hommes ». Ça vous dit quelque chose? Hein? Et ils vivent une vie austère dans le monastère. Et puis, ils soignent les gens. Il y en a un qui est médecin, puis il soigne les gens. Et c'est une vie normale, jusqu'à ce qu'à un moment donné arrive la menace et l'intimidation d'une persécution, voire d'une mort. Et il y a deux choix. Ils restent, ils partent. Ou le premier choix qu'on aurait envie de se dire, je pars. Deuxième choix, je reste. Et là, toute leur vie normale, tout à coup est chamboulée. Ils commencent à avoir une interaction entre eux qui est profonde. Ils commencent à avoir des temps intenses avec le Seigneur. Ils commencent à vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues avant. Et à la fin, tous ensemble, ils disent, là où le Seigneur nous a placés, tant qu'il ne nous dit pas de bouger, nous resterons. Et ils sont prêts, ils sont préparés, le positionnement, à entrer dans cette phase où ils seront à quelque part des semences de moissons par leur mort. Et effectivement, à la fin, ben, ils se font emmener et puis ils se font tuer. Donc, les temps de transition sont... Voilà, c'est toujours... voilà, il faut lâcher l'ancien, il faut être confiant et puis il faut ramasser, prendre le nouveau plutôt. Et puis aussi, dans ce nouveau qui arrive, est-ce qu'on est prêt à prendre tout ce que le Seigneur veut pour nous ? Tout, pas seulement ce qui est chouette, mais tout. Alors, l'expérience que j'ai vécue, puis j'en parlais à Michel quand on est revenu de l'Assemblée Générale de la Maison des Bulles, l'expérience, c'est que moi, j'ai vécu un temps de transition sans m'en rendre compte. Et c'est un ami en me téléphonant qui m'a dit, tu sais, j'ai écouté un thème qui parle de l'onction de transition. Puis ça m'a fait tilt, puis je dis, mais attends, il y a des choses. Parce que dans cette Assemblée Générale, on a un petit peu relaté les choses et tout. Puis je me suis rendu compte que chacun de l'équipe qui a soutenu ces 10 ans de la Maison des Bulles était géographiquement, le Seigneur leur avait donné un autre lieu géographiquement dans le canton de Vaud. Et je me rappelle aussi que quand on a eu cette vision à la Maison des Bulles de continuer ce qui m'avait été enseigné à Jeunesse en Mission, c'est-à-dire d'accompagner des personnes survivantes d'abus, et particulièrement une famille gravement touchée, alors, c'est pas, il y a tout un groupement de personnes qui est arrivé, une équipe magnifique. On pense à André et Irène, 10 ans d'amitié, 10 ans de soutien, 10 ans à Michel, qui a toujours été là aussi, et puis à Bernard Chantal, 7 ans. Et puis pendant ce temps-là, le Seigneur a envoyé des hommes du nord, du sud, de l'est, de partout dans le monde pour nous apporter des clés, pour amener des percées dans des situations extrêmement complexes. Et on a vu les miracles de Dieu s'accomplir. Puis les 10 ans se sont passés, on est arrivé au bout, et géographiquement, les personnes sont parties, et puis il n'y a plus rien eu. Et c'est vrai qu'il y a eu un questionnement mutuel de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais en même temps, je sentais le Seigneur soutenir la Maison des Bulles par son esprit. Et puis, malgré tout, les finances, qui étaient toujours un défi, sont quand même rentrées. Ça reste toujours un défi, mais elles sont rentrées. Et puis, dans ces temps-là, je me suis rappelée de tout ce qu'on avait vécu pendant ces 10 ans. Et pendant ce temps-là, voilà que la famille Trippet arrive, David et Aude, pendant un mois chez moi, à la Maison des Bulles. C'est à ce moment-là que tous ceux qui étaient concernés par ces 10 ans sont venus pour un temps d'intercession, de prière et de se retrouver. Et aussi une porte-parole d'un ministère qui nous a vraiment aidé à percer dans la vie particulièrement d'une personne, le ministère de Freedom Encounters, de délivrance. Il y a un porte-parole qui est arrivé et il y a une boucle qui a été bouclée. Ce soir-là, on a tous prié les uns pour les autres et c'était orchestré par Dieu. Impressionnant, orchestré. Et je me suis rappelé de ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur ? Il a mis un final à une saison. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il faut vraiment lâcher cette saison. Et j'ai vu ce couple qu'on avait accompagné, cette famille qu'on avait accompagnée dans un rêve, qui venait, qui me disait au revoir, qui partait tous en voiture. Et puis je leur disais au revoir, quoi. Je disais au revoir. Puis c'était normal, c'était bon. Et j'ai compris que la saison était finie et que pendant ce temps de transition, il y a eu un lâcher-prise, il y a eu une réflexion, il y a eu de ma part aussi de la repentance. C'était nécessaire, des repentances. Et puis, il y a eu un désir d'être toujours plus aligné avec le Seigneur, puis un positionnement. Actuellement, le Seigneur est en train d'ouvrir quelque chose de nouveau, donc je vais vous faire part dès que ça viendra clair, mais c'est déjà en train de se mettre en place, Et ça va être une dimension plus large dans laquelle ben, j'étais appelée à quelque part passer ce temps de transition pour que ça devienne plus large. Donc, c'est vraiment pour vous rassurer si vous vous trouvez dans des temps où vous dites, ça y est, c'est terminé. Ce chapitre-là, il est clos, réellement clos. Tout est accompli, c'est clos. Puis maintenant, et c'est le temps où le Seigneur, je crois, veut nous aligner avec lui, en lui, en plus grande profondeur, en plus grande hauteur, et nous amener à une maturité plus grande pour qu'on puisse entrer dans des choses plus grandes. Voilà, tout simplement, on dire. Mais en même temps, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui touche aussi notre Église. Est-ce qu'on est dans un temps où, quelque part, on se dit, bon, on a vécu beaucoup de choses, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Où on va? On parle de locaux, on parle de ci, on parle de vision, mais quoi? Est-ce que vous sentez un fil conducteur, réellement? Ou vous sentez que vous allez... Il y a des promesses, mais vous sentez... Qu'est-ce que vous sentez? Je ne sais pas s'il y a des impressions qui peuvent jaillir. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez qu'on est encore en plein dans un mouvement ou dans un mouvement de transition, d'après vous? D'autres qui pensent peut-être qu'on est encore entré dans quelque chose de nouveau ou un temps de transition, hein? Mais dans ce temps de transition, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne recherche pas beaucoup plus la face de Dieu? Est-ce qu'à quelque part, on cherche à entrer dans des profondeurs qu'on n'a jamais connues? Est-ce qu'à quelque part, le Seigneur ne met pas à l'intérieur de nous quelque chose qui le pousse à le chercher plus? Qui nous pousse à le chercher plus? Puis à quelque part, c'est aussi un temps de purification. Le temps de transition, c'est un temps de purification. Alors après, c'est vrai que pendant ce temps de transition, ben, moi j'ai développé l'atelier sur l'ordre du Seigneur, l'atelier d'entraide de Bethléem, de pain, qui m'a pris beaucoup de temps. Puis en même temps, je voyais qu'ils soutenaient la maison, mais je n'avais pas beaucoup de temps pour la maison. Et il y a quand même des questions, mais un ferme, non, c'est bon. Et ensuite, le Seigneur qui me dit, tu lâches un jour pour la maison. Ah bon, si y a un jour pour la maison, c'est que ça va reprendre. Et c'est vrai que c'était le jeudi, et puis il m'a dit, ben, la personne qui travaille l'après-midi, tu lui donnes le travail le matin aussi. Toute contente, parce qu'elle en avait vraiment besoin. Et puis moi, c'était un bonheur, tout à coup, de pouvoir m'occuper de la maison. Et le jeudi, je suis arrivée, et tous les jeudis, même on devait livrer dans une usine, on devait livrer un repas, quelque chose d'important, et ben ça a été déplacé au mercredi à la place du jeudi. Après, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a des événements qui arrivent, ben ils arrivent le jeudi. Et c'est des choses incroyables qui se passent. Donc, lâcher l'ancien. L'ancien, on a vécu beaucoup de choses. Et en fait, c'est nos acquis purifiés qui nous permettent d'aller dans cette période de transition et ensuite d'entrer dans la nouvelle saison. Ensemble, corporativement, personnellement. Et puis... voilà, aussi un orateur qui disait si on a besoin de laisser quelque chose d'inspirant pour cette région, n'est-ce pas? Quelque chose d'inspirant pour cette génération. Et en même temps, ben voilà, de s'aligner avec le Seigneur, s'aligner avec l'Esprit. Et en même temps, c'est une saison qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Moi, je n'avais pas la force de créer des événements. Et en plus, je n'avais pas envie de créer des événements pour créer des événements parce qu'on sollicite des gens, parce qu'on sollicite de l'énergie. Puis si ce n'est pas en Dieu, ça ne vaut pas la peine pour moi si je n'ai pas cette conviction. Alors après, j'ai dit, Seigneur, c'est ton affaire parce que je ne peux rien faire. Et Dieu a amené les orateurs, c'est qui téléphonait, puis voilà. Donc, pour vous dire que la transition est une belle saison de la part du Seigneur. Je vais vous lire un dernier verset qui est dans Ecclésiaste. Les marqueurs. Donc, vous connaissez ce fameux verset, c'est ce fameux chapitre qui dit « Il y a un temps pour tout. Hein? » Un temps pour... un temps... Ouh là là. Il y a un temps pour toute activité sous le ciel. Ça, c'est le résumé du tout. Pour naître, pour mourir, pour planter, pour arracher ce qui a été planté, pour tuer, pour guérir, pour démolir, pour construire, pour pleurer, pour rire, des fois on fait les deux à la fois, pour se lamenter, pour danser, pour lancer des pierres et pour en ramasser, pour embrasser, s'éloigner des lions ou s'éloigner des embrassades, pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'est encore pire que cette liste. Hein. Mais il y a vraiment des temps que le Seigneur donne. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression, dans votre saison de vie, les enfants quittent le nid, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre, on a éduqué nos enfants, ça y est, ils se sont pris en main, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On est à la retraite, il y a des nouvelles saisons qui s'ouvrent à nous. Qu'est-ce que t'aimerais pour moi pendant ce temps-là? Il y a des choses qui tombent, qui n'ont plus lieu d'être, qu'est-ce qu'on fait? Et j'aimerais terminer en glorifiant le Seigneur, en disant, en fait, la vraie transition s'est passée ici. Elle s'est passée là. Parce que quand il s'est sacrifié pour nous, il nous a fait passer d'une étape, d'un endroit, au travers de la croix, du voile déchiré, à une autre étape. Et le temps de transition, c'était à genoux devant la croix, la conviction que le Seigneur est mort pour nous. Et c'est lui la transition pour nous. Et c'est son esprit qui le fait. Voilà, donc moi, c'était un petit peu ce que j'avais sur le cœur. Et ce que je vous propose, c'est ceux qui se sentent dans cette période de transition, s'ils ont envie de se lever, moi je veux volontiers prier pour eux. Ceux qui se sentent dans cette période de transition. Toujours pas oublier qu'on vient d'un endroit, qu'on va à un autre, et que c'est un intermédiaire. Et que là où on va, la promesse de Dieu est là. Simplement, le temps de transition fait que c'est un peu la traversée du désert, où le Seigneur attire nos cœurs. Papa, moi je te remercie parce que c'est vraiment un sujet délicat, mais c'est un beau sujet. Merci parce que tu nous dis, arrêtez-vous et reconnaissez que je suis l'éternel Dieu. Merci parce que tu nous dis que tu ne nous abandonneras jamais et que tu nous conduis dans cette étape où tu nous apprends à te connaître encore plus profondément, encore d'une manière encore plus glorieuse. Et je te remercie de ce que mes frères, mes sœurs qui se sont levés, ils ont vraiment envie de vivre pleinement ce temps de transition comme toi, tu aimerais les amener à le vivre pour se préparer, se positionner pour la nouvelle étape. Merci que individuellement et corporativement, ton œuvre par ton esprit est certaine et ta main est en mouvement à l'intérieur de ceux qui t'aiment et tu les amèneras au port désiré, au pays promis, à un niveau plus mature en toi, à des révélations plus grandes que nous serons à ce moment-là capables d'accueillir parce que tu nous auras fait passer ce temps à l'écart, tout près de toi, porté par toi, nourri par toi. Je te demande de donner les gâteaux à ceux qui ont besoin d'avoir des gâteaux et puis je te demande que les corbeaux viennent nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris. Je te demande de fortifier ceux qui sont dans le désert, qui jeûnent et qui passent ce temps. Je te demande de fortifier ceux qui sont dans la bataille pour pouvoir être établis comme toi tu veux les établir au niveau de l'autorité et qui apprennent cette bataille de la pureté, de la sainteté de Dieu. Je te demande vraiment, Père, que tu étendes tes mains sur nous tous et que tu vois le cœur de notre Église, tu vois toutes les fois où tout le monde s'est levé. Tu vois toutes les fois où tous les cœurs se sont levés pour toi. Tu le vois, Père. Et alors, ça me donne de l'espérance. Ça nous donne à tous de l'espérance. C'est que ce que tu as dit de ta main, tu vas l'accomplir. Et je proclame que ta déclaration va juger tout ce qui est dit qui n'est pas sorti de ta bouche. Que la déclaration de ta bouche juge tout ce qui n'est pas sorti de la tienne. Et merci pour notre Église, merci pour ton cœur pour nous, merci pour ta fidélité, merci pour ceux qui ont construit avant nous, pour ceux qui ont passé ces transitions avec nous, qui ont bâti avant nous. Merci pour nos aînés qui ont bâti avant nous. Bénis-les, bénis-nous tous et sois bénis en retour, mais vraiment, Seigneur. Amen.